Souvenez-vous de votre vie avant l'iPhone et voyez comment il s'intègre maintenant dans tout ce que vous faites. Vous l'utilisez pour suivre votre santé, vous gardez le contact avec vos amis et votre famille pour payer. Il est devenu impossible de vivre sans. C'est pas moi qui le dis, c'est Tim Cook, PDG d'Apple. Il est devenu impossible de vivre sans iPhone. Paradoxe, peut-être pas Tim Cook, mais ce genre de dirigeant haut placé dans la Silicon Valley envoie ses enfants dans des écoles sans tablette. Du coup, on peut s'interroger sur la déconnexion et l'hyperconnexion, et finalement, ce qu'on désigne par ces termes un peu génériques, un peu fourre-tout. Peut-être ce sont des objets techniques avant tout. Autrement dit, l'hyperconnexion, c'est aujourd'hui le smartphone et toutes les applications qui vont avec. D'où le titre du podcast, Kill by App. Du coup, bah, si le problème c'est le smartphone, est-ce que la solution toute bête, c'est pas de vivre sans, voire de vivre sans iPhone ?
J'ai essayé.
De voir si c'est possible. Voilà, tu as essayé, Pia, et c'était un échec.
Voilà, total, puisque j'ai donc mon iPhone devant moi en même temps que je parle. Non, alors j'ai essayé, pas violemment, j'ai pas essayé de me passer de smartphone, j'ai essayé d'avoir un Yola. Pour ceux qui commencent, le Yola, c'est un téléphone un peu geek. On l'achète plutôt quand on est capable de développer dessus pour tester des applications. Ça a un OS qui existe nulle part, qui s'appelle Selfish. Bon, le mien est juste décédé d'un problème de batterie et je peux jamais le changer. Et donc, j'ai cédé. Voilà, la chair est faible. J'ai repris un iPhone, mais parce que l'interface est juste trop pratique. Voilà, donc je viens donner des conseils de déconnexion aujourd'hui, mais... Que je ne suis qu'à moitié. Alors, déconnexion, on a parlé de ces quadriables où on paye pour finalement ne plus avoir de Wi-Fi, ce qui est quand même un paradoxe assez délicieux. Et déjà, avant la pause, j'essayais de faire le lien avec l'habitat et nos appartements et comment finalement la configuration de nos technologies, elle redouble aussi la manière dont on configure nos espaces. Et il me semble que dans cet idéal d'être tout le temps déconnecté, ben, y a aussi un idéal transversal qui est en fait l'idéal du minimalisme. Alors, minimalisme entre guillemets, hein, on ne parle pas du tout des mouvements historiques ou artistiques qui portent ce nom, mais plutôt des nouveaux minimalistes. Alors, vous les connaissez peut-être, Marie Kondo avec la méthode KonMari ou de Minimalists avec leur incroyable newsletter qui encombre notre boîte mail au même titre que toutes les autres newsletters. D'ailleurs, Anthony, est-ce que tu veux nous révéler combien de newsletters tu avais sur ta boîte mail ?
Juste avant l'émission, j'ai reçu un mail de Unroll Me, d'ailleurs, c'est assez drôle que ça m'envoie un mail, qui m'informait que j'étais abonné à 590 newsletters et je peux me les inscrire une par une, mais ce qui me prend un temps de dingue. Et puis juste après, tu essayais de faire de même et le service te demandait de s'abonner et de partager cette information.
Oui, c'est-à-dire que je pouvais que me désabonner si je le partageais sur Facebook, mais comme j'ai plus Facebook, et ben ça n'a absolument intérêt.
On voilà. Était tombé dans une espèce de chaîne sans fin causale.
Alors qu'on parle des fantômes de la déconnexion, donc c'est quand même un comble. Mais sur cette question de l'habitat, pour revenir là-dessus, qui est vraiment liée à la question des technologies, on se rend compte qu'il y a de manière contemporaine et très très forte cet imaginaire du vidage, du dépouillement. Donc ça s'appelle en anglais le declutter. Donc c'est vraiment l'idée de décharger, de désencombrer tous nos environnements. Et donc cette espèce de mode, qui est une mode, on va dire, de lifestyle, pour aller très vite, elle recoupe des imaginaires plus anciens qu'on trouve dans la fiction. Alors, deux exemples très rapides. Moi, il me semble qu'on voit ça dans Matrix. Matrix, on peut le voir comme l'histoire d'un mec qui se désabonne à tous les services auxquels il est abonné. Ou même dans Existence, donc cette histoire où on voit des gens qui se connectent à un réseau virtuel à l'aide de consoles biotechnologiques, on va dire, et qui n'en finissent pas de se déconnecter pour remonter à une couche supérieure de réel, mais sans y arriver complètement d'ailleurs.
Après, encore dans l'idéal matériel où la connexion se voit avec des gros câbles ou des matrices ou des espèces de biologiques, des pods. Peut-être que ce qui est pervers aujourd'hui, c'est que ces 590 newsletters sont invisibles. Je n'avais aucune idée d'être abonné à autant de fils et les débrancher un par un. C'est comme une hydre qui repousse tout le temps, quoi.
En même temps, cet idéal de déconnexion, alors là, Anthony, c'est plutôt ta partie, puisque c'est plutôt toi qui as beaucoup parlé de philosophie dans ta thèse, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus ancien sur des espèces de récits de révélation, en fait. On a l'impression qu'en se déconnectant, on va accéder à une vérité, alors peut-être pas supérieure, mais en tout cas une vérité originelle. C'est quasiment le retour de Platon et sa caverne, c'est-à-dire désencombrez-vous et vous aurez accès à une espèce de vérité peut-être pas ultime, mais en tout cas débarrassé de tous les encombrements et tous les signaux superflus de Facebook, d'Instagram, de Twitter.
Et donc le Graal, c'est le 3310 et qui ressort aujourd'hui et qui a fait la une du CES mobile, alors que c'est un téléphone qui datait d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben moi, j'ai adoré ce téléphone. Mais je pense, là, pour le coup, je parle de manière plus personnelle. Je pense que le 3310 est incroyablement lié, pour tous les gens de notre génération, à au moins une grande histoire d'amour. Moi, je vois un 3310, je revois tous les textos de personnes que j'ai aimées défiler sur l'écran. Et, mais je trouve que ce lien n'est pas absurde, parce qu'on parlait d'existence et ce rapport bon, biotechnologique, mais qui est quasiment sexuel. Plus tôt, je parlais des questions de pharmacopornographie. Donc, encore une fois, on lit bien technologie et sexe. Et petit teaser, avec Anthony, on vous parlera prochainement des sexbots, donc ces robots avec lesquels il serait potentiellement possible de faire l'amour. Moi, il me semble que dès lors qu'on parle de technologie, on parle très, très vite de désir et donc de sexualité. Et donc, 3310, désolé, moi, je pense sexe. Mais j'ai peut-être l'esprit mal placé, vous me direz.
Bon, après, c'est un peu décevant. 3310, c'est pas tout à fait le même. Il est moins solide, il a la 4G. Donc, bon. Ce remake, il est un petit peu mensonger quand même.
Mais on peut jouer à Snake.
En couleur.
Et ça n'a pas de prix.
Alors Thierry Crouzet, qui est journaliste techno, en 2012, a essayé de se débrancher. Et il a raconté ça dans un ouvrage qui s'appelle « J'ai débranché », tout simplement. Et paradoxe, en tout cas à l'époque, cet article ou ce livre avait fait le tour du web sur tous les sites. Et donc, pour lire comment il s'est débranché, il fallait être sur Internet, sur le web plutôt, pour lire tous ces comptes rendus. Donc finalement, on est toujours dans un peu comme toi, Pia, avec tu dis que tu quittes Facebook sur Medium, qui est une autre plateforme propriétaire.
Désolé. Donc,
finalement, on n'en sort pas.
Exactement. Non, mais il y a quelque chose d'une spirale. Et puis, mais en même temps, je crois aussi qu'il y a une séduction de la déconnexion. C'est-à-dire que quand on se déconnecte ou quand on souhaite se déconnecter ou quand on dit qu'on se déconnecte, parce que finalement, plus important encore que l'acte de déconnexion, il y a le discours qui est produit autour de la déconnexion. Quand on fait tout ça, on rejoue quelque chose d'hyper fondamental dans une relation homme-technologie, mais qui prédate Internet, le web. C'est vraiment la relation homme-machine. Et l'idée que dans la relation homme-machine, le moment du débranchement, c'est le moment où l'humain, finalement, réaffirme sa supériorité. Là, on va citer un film qu'on aime beaucoup.
Et, comme dans une relation amoureuse aussi, dans un sens, quand tu veux quitter quelqu'un, ça résiste. Puis Facebook a dû résister, dans un sens.
Oui, bah, Facebook m'a rappelé, j'ai eu droit à des petits écrans, des petits mails me disant « Ah,
ne me quitte pas.
Voilà, tu veux partir, mais peut-être que tu n'es pas sûr. Donc, on te donne un mois, tu as un délai de réflexion, comme ça, si
on
jamais
fait
tu craques. »
Une pause, tu laisses réfléchir.
Voilà, exactement. Bon, sauf que je n'ai pas craqué du tout, au final. Non, j'en suis vraiment déconnectée. Par contre, maintenant, dès lors que je me reconnecte sur Facebook, les contenus sont partiellement voilés, sont très difficiles d'accès. Donc, bien entendu, bah, voilà, il y a quand même une perte, quoi. On ne peut pas dire que tout ça est indolore, mais...
Peut-être c'est là le cinéma peut être intéressant. Du coup, comment la machine a débranché dans le cinéma ?
Bah, je pensais à 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film auquel on fait référence en permanence, surtout pour la scène où donc le cosmonaute va débrancher le robot HAL qui est hors de contrôle et qui tue tout le monde, hein, on peut le dire. Et c'est une scène qui est vraiment très belle parce que c'est une scène qui associe l'esprit de la machine, la relation affective que l'homme ou enfin l'humain peut avoir à la machine, et surtout. Ce qui est très très beau dans cette scène, donc on voit le cosmonaute débrancher le robot disquette par disquette et on voit le robot qui perd petit à petit toute son intelligence. Ça commence par l'agilité, le cynisme, mais ça finit par des choses très très essentielles au niveau du langage. Et dans ce moment-là, il y a tout un temps où finalement l'humain affirme sa supériorité sur la machine. Et il me semble qu'on a ça en tête, enfin... Évidemment, ça n'a rien d'aussi dramatique que quand on se déconnecte de Facebook, mais c'est un peu ce drame-là qu'on rejoue, au fond.
Bon, après, les astronautes, c'est aussi une élite. Finalement, est-ce qu'en quittant Facebook, tu n'affirmes pas aussi une position sociale que tout le monde n'est pas prêt ou ne peut pas tenir ? C'est la question que je vais te poser.
Bah, finalement, quand on n'a rien dont on peut se priver, bah, on ne se prive pas. Hein. C'est aussi le spectacle de dire « Regardez, j'ai toutes ces choses, mais je suis capable de m'en passer ».
Ça me faisait penser au sociologue Jean Baudrillard, qui a réfléchi autour de la société de consommation et des objets et à la fonction signe, et qui montre que finalement, on en revient peut-être au design après le cinéma, que quand on achète des objets ou quand on a une relation sociale avec eux, on échange des signes et non pas des besoins ou des usages, et que finalement, bah, la déconnexion ou le désencombrement est une fonction signe. On montre aux autres qu'on n'a pas quelque chose.
Moi, j'ai parlé de Baudrillard il y a pas longtemps dans un colloque sur les images en transit, et j'ai parlé plus particulièrement de ces espaces très, très désincarnés qu'on appelle les espaces airspace. Alors ça peut paraître très, très éloigné des questions de la déconnexion, mais en fait ça se rejoint, et encore une fois ça se rejoint à l'angle du minimalisme. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a un faire signe de la déconnexion, donc c'est-à-dire je montre que je me déconnecte et je parle de ça et je me valorise socialement en disant que je suis déconnectée et que je n'ai pas besoin de ces services que sont Facebook ou Instagram, il y a aussi un faire signe du faire le vide. Donc on en parlait avec les fameux minimalistes ou KonMari. Alors j'ai pas trop expliqué ce que c'était que Marie Kondo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ouvrage qui a eu un très très grand succès. Donc Marie Kondo est une spécialiste et coach du rangement, et en fait, elle pose un propos très simple dans son ouvrage, qui doit s'appeler « L'art japonais du rangement », si je ne me trompe pas. Ça consiste en fait à ranger son intérieur et se débarrasser de tout ce qui l'encombre en prenant les objets entre ses mains et en se demandant si ces objets vous apportent de la joie. Et si ces objets ne vous apportent pas de joie, vous vous en débarrassez. Ce qui est assez problématique au fond, parce que déjà, ça s'adresse à des populations plutôt favorisées. Enfin, c'est ce que tu disais avec Baudrillard, finalement. C'est que si j'ai pas d'objets dont je peux me priver, bah, finalement, je le mets pas en spectacle.
C'est ça, je pense que Baudrillard aurait apprécié Marie Kondo. C'est faire savoir aux autres qu'on n'a pas quelque chose de façon ostensible. Ce qui génère du coup, paradoxalement, un encombrement médiatique dans tous les messages qu'on va faire passer. Si je jette sans le dire à personne, ça n'a aucun intérêt. Je suis riche parce que je peux montrer aux autres que je peux jeter les objets, classe inférieure, qui, elles, doivent encore acquérir des objets pour, en tout cas, donner l'illusion qu'elles sont dans une classe sociale supérieure.
Complètement, et on le voit bien avec les minimalistes, c'est un groupe de deux personnes, alors j'ai oublié leur nom, ils m'excuseront, ils ont produit un documentaire qui s'appelle Minimalism, donc minimalisme, dans lequel ils expliquent tout ce mode de vie et cet idéal-là, mais en même temps ils ont créé toute une somme de services et toute une production médiatique autour de cet exercice du minimalisme, de telle sorte que ma boîte mail est encombrée par leur message me disant de me débarrasser de mon bordel matériel. Donc on efface un bordel, si vous me passez l'expression, d'objets pour recréer un bordel numérique.
Oui, sachant que là, en plus, le désencombrement ne produit pas mécaniquement des meilleures choses. Je pense, bon, certes, il est controversé, mais l'écrivain Céline, son bureau était un bordel monstre. Et pourtant, ça fait partie des écrivains qui comptent aujourd'hui.
Du coup, vive le bordel.